de nos devoirs réciproques. Il est question de ce que Dieu nous montre, de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, membres de son corps, pour que l'Église soit vraiment harmonieuse, qu'elle reste la pensée, l'expression du cœur de Dieu. Elle reste vivante, elle reste forte, elle reste en conséquence bénie. Et on a vu plusieurs choses ensemble, et notamment on a vu ici dans les derniers messages sur la base de Colossiens 3, Éphésiens 4, ne mentez pas les uns aux autres. On a vu les raisons pour lesquelles nous devions jamais laisser rentrer ce principe satanique dans nos vies de façon générale, mais encore moins dans l'Église, dans le corps de Jésus, que chacun parle selon la vérité. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et puis, je vous renvoie au message de la dernière fois. Si, comme peut-être vous l'avez pensé, vous vous êtes dit, oui, mais c'est quand même... C'est pas toujours évident de dire la vérité. Ça peut paraître dur parfois de dire la vérité. Il faut du courage pour être vrai et pour parler vrai. Mais c'est ce que nous avions vu ensemble. L'apôtre Paul nous montre 5 bons porteurs, 5 mauvais porteurs et 5 bons porteurs de vérité. Et selon à qui vous allez confier la vérité que vous voulez faire passer, soit ça va aller dans le mur, soit ça va passer. C'est simplement une histoire de choix. À quel porteur spirituel je vais confier la vérité. Vous pourrez reméditer ces choses. Et puis ce matin, toujours dans Colossiens 3, et en lecture complémentaire Éphésiens 4, on va regarder cette nouvelle injonction, ce nouvel impératif de Paul, supportez-vous les uns les autres. Alors, on reprend Colossiens 3 pour commencer, au chapitre 1er. Puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Puisque vous êtes morts et que votre vie est cachée en Christ, en Dieu avec Christ, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. En conséquence, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Impudicité, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, c'est de l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. D'ailleurs, fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, sous-entendu, puisque vous êtes de nouvelles créatures, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes, les propos équivoques, ce qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Soyez dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Revêtez l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Christ doit être tout et en tous. Ainsi donc, puisque vous êtes les élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien, l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. On va tout de suite faire cette petite lecture complémentaire dans Éphésiens chapitre 4. Juste les 3 premiers versets. Et vous allez nécessairement, on va voir des similitudes dans la pensée de Paul, Éphésiens 4. Verset 1er, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher, c'est-à-dire à vous comporter d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Et puis les propos de Paul derrière, si vous continuez la lecture, vous apercevez que c'est tout de suite encore la thématique du corps et de l'unité des divers membres du corps. Aujourd'hui, c'est le dernier, il y en a plein d'autres, mais ça ne sert à rien d'être exhaustif, c'est le dernier Allélon que je veux voir avec vous. Ensuite, on continuera sur d'autres aspects, sur d'autres facettes de l'Église. Mais sur le plan relationnel, c'est le dernier que je veux aborder avec vous. Il me semble très important et j'ai vraiment à cœur de vous le partager. Ce verset 13, « Supportez-vous les uns les autres ». Je vous rappelle dans le contexte que dans la pensée de l'apôtre Paul, il est en train de montrer aux croyants, aux disciples nés de nouveau, que la vie nouvelle que le Seigneur leur a accordée dans sa grâce, qui est un pur miracle, que nous ayons cette vie nouvelle, engendre aussi des responsabilités. Une grande grâce, un grand privilège, engendre toujours une grande responsabilité. Et vous avez remarqué que tout ce que Paul dit, ce sont des impératifs. Il n'y a pas « je le sens pas, je ne suis pas sûr, je n'ai pas envie, j'y arrive pas ». L'apôtre Paul, il ne demande pas ça. Il dit « vous avez une vie nouvelle, vous avez une grâce extraordinaire, vous avez un potentiel de vie que vous ne soupçonnez même pas, vous avez un avenir devant vous que vous ne soupçonnez même pas, que Dieu a déjà tracé pour vous. Et si vous voulez que cette vie nouvelle s'épanouisse, si vous voulez vous emparer de tout ce que Dieu a déjà prévu pour vous, c'est à vous de dégager, pardonnez-moi pour le mot dégager, c'est à vous de dégager de vos cœurs, de vos vies, de vos couples, de vos relations, de votre église, c'est à vous parce que Dieu ne le fera pas à votre place, parce qu'un ange ne descendra pas pour le faire à votre place. C'est à vous, responsable de la vie nouvelle qu'il vous a donnée, de dégager ce qui fait obstacle à la vie, à la croissance, à la bénédiction. Et c'est pour ça que Paul, il y va franchement, verset après verset. Ce sont que des impératifs. Affectionnez-vous, cherchez, ne faites plus, arrêtez, etc. Ce n'est pas une liste de « il ne faut pas ». L'apôtre Paul, il est en train de dire « mais tu n'as pas idée de qui tu es en Christ ». Et si tu réalises qui tu es en Christ et le potentiel de vie qu'il est devant toi et l'avenir que Dieu a pour toi, mais tu ne vas pas t'amuser à perdre ton temps avec ça, ça, ça. La colère, ça dégage. La porno, elle dégage. L'impudicité, ça dégage. L'impureté, ça dégage. Le mensonge, l'hypocrisie, la façon double de parler, etc. Les mauvaises pensées et tout ce que je peux identifier. L'apôtre Paul est clair, net, précis. C'est comme ça. Discute pas. Ne t'excuse pas, ne trouve pas d'échappatoire. Paul te le dit, Stéphane Brion n'est rien, c'est un pauvre petit pasteur de campagne, il n'existe même pas. L'apôtre Paul a le statut d'auteur biblique inspiré et infaillible. Et il te dit, fais-le, 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 parce que tu n'as pas idée de la bénédiction qui t'attend derrière. Alors c'est comme s'il me disait, vu la vie que tu as, Stéphane, ne gâche pas ce potentiel de vie avec des habitudes, avec des pratiques qui viennent de l'ancienne vie. Ne ramène pas des choses qui viennent de l'Égypte. C'est à toi de dire non, de renoncer, parce que dans renoncer, il y a non. C'est à toi de renoncer à la mentalité de ce monde, aux pratiques de l'ancienne vie, et c'est à toi de renoncer à tout cela, en l'occurrence au mensonge. Et une fois qu'on a enlevé ce qui fait obstacle à la vie et à la bénédiction, ensuite on va apporter, on va mettre ce qui est bon dans les relations. Et ici, le supportez-vous, on va parler d'encouragement, on va parler de soutien spirituel et moral, on va parler d'encouragement et de soutien mutuel. Éphésiens 4, 2, Colossiens 3, verset 13, vous supportant les uns les autres. Ce verbe, ici, supporter, évidemment, c'est pas supporter au sens qu'est-ce qui me saoule. Oh la fille, oh la sœur, la sœur, elle est sympa, mais elle est lourde, hein, vraiment. Non, ça c'est supporter au sens péjoratif du terme. Et le Seigneur ne nous supporte pas comme ça. C'est pas de la résignation. Il faut comprendre que le mot supporter a deux sens. En grec, comme aussi dans beaucoup de langues, on peut avoir des mots qui ont des doubles sens, c'est normal, on le sait. Et ici, il ne faut pas le comprendre, il y a deux sens. Là, je vous mets le premier sens, c'est celui qu'il ne faut surtout pas prendre. Mais on en a besoin parce que anéromai, c'est endurer, supporter courageusement, comme par exemple dans 1 Corinthiens 4, au sujet des persécutions. Oui, dans ce sens-là, par moment, nous sommes appelés à supporter courageusement. 1 Corinthiens 4, nous sommes parfois injuriés. Paul dit, mais nous bénissons. Nous sommes persécutés, mais nous supportons. Au sens, nous endurons courageusement des persécutions pour le nom de Christ. 2 Thessaloniciens 1,4, Paul leur dit, vous êtes appelés à persévérer au milieu des persécutions, les tribulations que vous avez à supporter, à endurer pour le nom de Christ. Ça, dans ce sens-là, nous sommes amenés à supporter des tribulations, des persécutions, des injustices, parce que nous sommes sur le chemin de notre maître, évidemment. Mais je vous ai mis ici, c'est pas dans ce sens-là que nous supportons nos frères et sœurs. Là, c'est pas le sens. Nous ne sommes pas appelés à supporter nos frères et sœurs comme nous supportons parfois des persécutions, des tribulations, des injures. L'apôtre Paul a dit « supportez-vous ». Il n'a pas dit « vous subissant les uns les autres ». Non, je ne subis pas mon frère, je ne subis pas ma sœur. Je ne suis pas dans la résignation. Bien souvent, des fois, on dit « c'est pas gentil », mais on l'a pensé, on l'a dit « qu'est-ce que tu veux ? J'ai pas mieux que lui, ben, on fait ce qu'on peut. » C'est de la résignation. Je suis désolé, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Moi, je n'ai pas mieux qu'elle. Hein. Il va falloir faire avec. Hein. Heureusement que le Seigneur, quand il me regarde, il ne dit pas « mon pauvre Stéphane, pauvre église d'Aubagne, il faut faire avec ce que vous avez, je n'ai pas mieux que lui. Hein. » Heureusement que le Seigneur, il ne vous regarde pas. « Ah, je suis désolé, mais tu sais, je n'ai pas mieux que toi, alors je suis obligé de faire avec. Hein. » Le Seigneur, il ne nous subit pas, vous êtes d'accord ? Le Seigneur, il n'est pas résigné vis-à-vis de nous. Le Seigneur, lui, nous porte. Et puis des fois, vous savez, j'insiste, je vais passer à la vraie définition, à la deuxième, hein, au deuxième sens. Mais, et combien de fois on a dit devant des personnes qui étaient un petit peu, on va dire, d'un caractère vraiment pas comme nous, un peu pénible, allez, osons le dire, à notre sens, c'est pénible. Mais vous savez, c'est très subjectif. Combien de fois on a dit, ah, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien porter sa croix, hein. Ton frère, ta sœur, ton mari, ton épouse, dans ses moments difficiles, avec ses lacunes de sanctification, avec ses besoins de progrès, c'est pas ta croix. T'es pas obligé de le vivre comme une résignation. Mais frères et sœurs dans l'Église, vous n'êtes pas la croix des uns des autres. La croix n'est pas une personne, porter sa croix, vivre dans l'esprit de la croix, c'est vivre dans l'esprit de Christ. C'est un esprit, la croix c'est le symbole du renoncement. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à son ego, à sa volonté propre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il renonce à sa propre vie, à sa volonté, à son ego et il entre dans une mentalité, dans un état d'esprit différent, un état d'esprit de pardon, un état d'esprit de renoncement, d'abnégation, d'amour sacrificiel. Ça, c'est l'esprit de la croix. Mais les frères et sœurs dans l'Église, non, c'est pas ma croix. Vous n'êtes pas ma croix, frères et sœurs, et vous n'êtes pas des croix, et vous n'êtes pas des chemins de croix les uns pour les autres. Même si c'est vrai, on est tous appelés à être patients les uns avec les autres. Mais nous ne sommes pas des croix les uns pour les autres. Et c'est ce qui va m'amener à la deuxième phase de la définition, même si je suis amené à être patient avec les lacunes de mon frère, de ma sœur, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, etc., même si je suis amené à, je ne suis pas obligé de le vivre comme une contrainte. Je ne suis pas obligé de le subir. Dieu ne veut pas que tu subisses. Dieu ne veut pas que tu sois résigné. Je peux le vivre bien, je peux le vivre joyeusement. Même une personne qui, effectivement, à partir du moment où je suis vraiment dans l'amour qui est le lien, la garantie d'un lien de perfection, si je suis dans le Christ tout en tous, si je suis dans cet amour, même la personne qui a un caractère difficile, excusez-moi, c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement, je l'aime. Non, elle ne me saoule pas. Non, je n'ai pas envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Non, je n'ai pas envie de... Je peux le vivre joyeusement parce que je l'aime de l'amour qui est le lien de la perfection. Et du moment que l'on vit par l'esprit, l'Église par l'esprit et non par la chair, ben c'est comme ça que je peux vivre bien, même si... C'est vrai que l'autre, ça fait un petit moment qu'objectivement, il n'a pas beaucoup avancé. Quoi. C'est toujours pareil. Quoi. Ah, mais c'est plus fort que moi, je l'aime et... Et quand il n'est pas là, ben il me manque quand même, quoi. Il est fou, ce pasteur. Comme ça, frères et sœurs, nos bien-aimés dans l'Église, nous ne les subissons pas. Nous les portons. Nous les portons, nous nous portons les uns les autres. C'est la deuxième partie de la définition de anéromai, c'est-à-dire tenir fermement quelqu'un. Si je tiens quelqu'un fermement, et c'est ça aussi ce lien d'unité, ça va être, on va le voir, un élément indispensable de l'unité. Tenir mon frère, tenir ma sœur, tenir quelqu'un solidement, fermement, ou aussi porter par le dessous. Et c'est dans ce sens que Paul dit, puisque vous avez enlevé de votre vie les choses de l'ancienne vie, dans votre vie nouvelle, vous avez enlevé les choses de l'ancienne vie, puisque vous avez renoncé aux mensonges, vous avez aussi renoncé à l'hypocrisie, des mensonges comportementaux, puisque vous êtes dans la lumière, la droiture, la vérité, vous êtes dans l'amour, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre dans l'Église que d'attraper vos frères et sœurs, pas pour les secouer, mais pour les encourager. Vous les tenez fermement, et puis, parce que c'est comme ça, vous les aimez, vous ne pouvez pas faire autrement que les aimer. Ok ? Tenir quelqu'un fermement, porter par le dessous, supporter, porter un frère, une sœur par le dessous. On trouve aussi dans d'autres langues, j'ai regardé aussi dans le latin, dans le français, on retrouve des choses similaires, évidemment, en signification. En latin, « supportare », qui signifie « soutenir quelque chose » ou « soutenir quelqu'un ». C'est l'exemple, c'est vraiment l'idée de piliers solides qui sont en dessous et qui garantissent la solidité de l'édifice et qui vont tenir par-dessous. C'est vraiment l'idée de supporter, porter par le dessous. En français, « supporter » veut dire aussi « soutenir, porter par le dessous. Supporter signifie aussi apporter ses encouragements. Dans la pensée de Paul, nous concernant, ça, c'est rien d'extraordinaire. C'est juste logique. C'est la logique de l'Église selon le cœur de Dieu. C'est la logique en vérité d'une vie qui est dans l'amour. Si vous êtes vraiment dans l'amour de Christ, ces choses-là vont se manifester naturellement en vous. Et nous concernant, c'est la conséquence de l'amour de Dieu en nous. Et nous sommes appelés à être de véritables sources d'encouragement, de véritables soutiens spirituels et moraux, les uns pour les autres. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de moralisation, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas d'accusation, il n'y a rien. Question simple, chacun répond dans son cœur. Est-ce que les autres, pas les uns, parce que j'ai jamais de problème avec les uns, parce que les uns, ils sont tous comme moi, donc tout va toujours bien avec les uns. Mais l'apôtre Paul, il a dit les uns, les autres. Donc, les uns, je vous pose une question. Est-ce que les autres se sentent encouragés par vous? Est-ce qu'ils se sentent portés? Est-ce que les autres se sentent soutenu. Est-ce qu'ils savent qu'en vous, il y a du soutien, de l'encouragement, de la compréhension, de la douceur, de l'amour? Est-ce qu'il y a un soutien spirituel et moral réel? Les autres, est-ce que les uns se sentent réellement soutenus, encouragés, portés? Est-ce qu'ils peuvent compter sur toi? Et autant que les uns peuvent compter sur les uns. Parce que vous savez, quand c'est ça qui est extraordinaire, quand l'apôtre Paul il a envoyé ce à l'Elon, les uns, les autres, les uns, les... Il y a toujours de la réciprocité. Et puis, ce n'est pas toujours les mêmes. Parce que tu dis, bah oui, mais moi, je soutiens des gens. Oui, mais si tu soutiens toujours les mêmes, ça veut dire que les uns soutiennent les uns. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est clanique. C'est un esprit de clan, c'est un esprit de parti. Non, les uns, les autres, sans aucune distinction. Ce soutien, bien-aimé, c'est un élément déterminant de l'unité et de la solidité de l'édifice qu'est l'Église. Ce bâtiment spirituel, hein, cet édifice spirituel, pas le bâtiment géographique, on est au clair, mais cet édifice spirituel, c'est cette solidité qui est garantie, cette unité, cette solidité est garantie par ce principe. Portez-vous les uns les autres par le dessous. Vous vous tenez fermement les uns les autres et vous vous portez les uns les autres par le dessous. Et Paul, comme vous l'avez peut-être fait remarquer, mais si vous avez prolongé vite fait la lecture ou si vous le faites chez vous, dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul évoque ce soutien mutuel dans le contexte de l'unité de ce corps miraculeux qu'est l'Église. Éphésiens 4, on a lu les versets 2 et 3. Marchez, c'est-à-dire comportez-vous, la marche chrétienne, la marche, c'est une image de notre comportement, de notre attitude. C'est une image de notre façon de vivre. Et Paul évoque ce soutien mutuel dans la norme. C'est la norme du chrétien, encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire. Le jour où une église, elle est à ce niveau et qu'elle fait ça et qu'elle vit ça, et elle ne fait rien d'extraordinaire. C'est juste une église normale. Et tant que l'église n'a pas ça, c'est une église pas normale. Ce n'est pas une église extraordinaire, c'est une église pas normale. Et quand elle vit ça, ben, elle est au diapason, elle est à la norme. Elle est au niveau à bulle de la parole de Dieu. Ça fait partie de votre marche, c'est une façon. Comment est-ce que je me comporte d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée? Ben, de différentes façons, comme le fait de vivre dans le pardon, dans l'humilité, etc. Mais aussi le fait de marcher, de se comporter dans l'Église, c'est dont il est question ici, digne de la vocation qui vous a été adressée, à savoir... Ben voilà le comportement que le Seigneur attend de moi, attend de toi, de chacun d'entre nous, dans l'Église, les uns, les autres. Tenir son frère, sa sœur, peu importe qui c'est, peu importe s'il n'a pas les mêmes opinions que moi, le tenir fermement et ensuite le porter par le dessous. Je porte mon frère me porte. Je porte ma sœur me porte. Et ce n'est pas toujours les mêmes qui portent parce que c'est les uns, les autres. Et ça tisse dans l'invisible, parce que c'est du spirituel, et ça tisse dans l'invisible des liens qui sont d'une force qu'on ne soupçonne encore pas, contre lesquels le diable ne peut rien, rien, rien. Lui, tout ce qu'il va essayer de faire, c'est de couper ces liens, diviser pour mieux régner. Donc il va essayer de couper ces liens. Mais l'apôtre Paul dit, vous avez une vie nouvelle. Arrêtez de vous faire mener par le bout du nez. Arrêtez de réfléchir de façon charnelle. Voyez les choses de façon spirituelle. Et puisque vous avez une vie nouvelle et que vous avez un avenir extraordinaire, eh bien faites ce que le Seigneur vous demande. Comportez-vous d'une manière digne et un comportement digne de Christ dans son Église. Parce que l'Église de Jésus, ce n'est pas une institution humaine, ce n'est pas une association quelconque. L'Église de Jésus, c'est un miracle qui a coûté le sang du Christ et qui lui a coûté sa vie et son renoncement ultime. Je sais le prix de mes frères et sœurs. On est d'accord ? Je sais le prix de mes frères et sœurs. Eh bien, vous voulez vous comporter d'une manière digne ? Ben, ce qui est digne de Christ dans l'Église, c'est de se tenir les uns les autres fermement et de se porter par le dessous. Amen. En toute humilité, dit Paul, portez-vous par le dessous, en toute humilité, en douceur, avec patience. Ah, on retrouve les mêmes ingrédients, on retrouve les mêmes attributs de Christ qu'on avait vus dans Colossiens, dans Éphésiens, dans les Philippiens. On retrouve toujours les mêmes ingrédients, la douceur, l'humilité, l'amour, la patience, etc., vous portant les uns les autres avec amour, avec cette précision dans l'Épître aux Éphésiens, avec cette précision, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans le texte des Éphésiens, les deux propositions sont juxtaposées, elles sont logiques. C'est la conséquence l'une de l'autre. Les deux propositions sont juxtaposées. Vous supportant les uns les autres, vous portant les uns les autres avec humilité par le dessous, avec amour, et vous efforçant, c'est comme ça que vous vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il est bien question d'unité dans les versets suivants aussi. Ce qui m'a aussi interpellé, c'est ce vous efforçant dans le texte des Éphésiens. Vous efforçant, spoudazou, qui désigne littéralement une application, on s'applique. on apporte un soin particulier. Ce verbe a aussi un double sens. J'ai pas mis le double sens, j'ai mis s'appliquer, une attention particulière, un soin particulier, mais il signifie aussi s'empresser. S'empresser, se hâter. Parce qu'en réalité, l'apôtre Paul dit ici, non seulement vous devez faire tous vos efforts, vous devez apporter un soin particulier à conserver l'unité de l'esprit. C'est ça votre but. C'est ça votre priorité. C'est ça votre défi. C'est ça votre mission. C'est ça votre challenge. Parce que Dieu nous challenge. Vous efforcez, vous devez absolument vous appliquer. Mais en plus, dans ce athée, il y a la notion de priorité. Ça évoque un soin particulier, mais une priorité. Qu'est-ce que je fais dans l'église ? Avant de savoir si je fais le ménage, l'école du dimanche, la chorale, la musique, le machin, l'évangélisation, ceci. Qu'est-ce que je fais dans l'église ? Dans l'église, ce que je fais, j'ai une priorité, j'ai une hâte. C'est de m'efforcer de conserver l'unité de l'église par le lien de la paix. Amen. Vous efforçant, spoudazo, une attention, un soin particulier, c'est une priorité dans ma vie de disciple, c'est une priorité de la vie nouvelle. D'autres versions ont traduit ça par vous appliquant, vous efforçant de conserver l'unité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit. Une autre version, parole de vie, étant soigneux, j'aime beaucoup cette version aussi, étant soigneux. Je vais faire attention, comme quelqu'un qui est en train de faire un travail et qui va réellement être minutieux et qui va s'appliquer, étant soigneux de garder l'unité de l'esprit. Vous pouvez noter que, quels que soient les mots, quelle que soit la traduction de ce texte, ils sont toujours traduits par conserver, garder, rester, s'appliquer, se hâter, s'empresser, etc. Parce que, pour rappel, cette unité, bien-aimée, cette unité, elle est acquise. Je ne reviens pas sur tous les messages précédents. Cette unité, elle est acquise par la croix et par tous les principes spirituels. Et en réalité, c'est à nous, ensuite, de ne rien laisser pénétrer dans l'Église qui pourrait affecter l'unité de l'Église. Et c'est à nous, ensuite, de mettre en place tout ce qui doit être mis en place, s'efforçant pour pouvoir conserver, non pas pour créer, mais Paul dit bien pour conserver l'unité de l'Église. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité de ne rien laisser qui pourrait affecter, voire détruire l'unité que Jésus nous a si chèrement acquise à la croix. Il n'y a rien de plus faible et vulnérable qu'une Église qui n'est pas unie au sens où Jésus l'entend. Il n'y a rien de plus tragique et qui me donne plus envie de pleurer qu'une église qui n'est pas unie au sens où Jésus l'entend. Parce que je sais ce que Jésus a payé à la croix pour que l'église soit l'église aujourd'hui. Et c'est ça que nous devrions considérer en priorité au lieu de, bien souvent, nous attacher à des tas de choses de l'ancienne vie qui, excusez-moi, n'ont plus rien à faire là. Et puis, oui, mais quand quelque chose se présente, mais oui, mais l'apôtre Paul a tout prévu. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, dans la pensée, c'est « puisque », parce que c'est évident, mais oui, bien-aimé, c'est inévitable, quelque chose va se présenter, parce que ça arrive, c'est inévitable. Quand quelque chose se présente, quelque chose qui pourrait être dangereux pour l'unité, il faut le régler, on le règle avec humilité, on règle avec douceur, on ne laisse pas les choses, les situations s'envenimer, on ne les laisse pas pourrir sous le tapis, pardonnez-moi, mais on règle avec humilité, avec douceur, on l'a vu, avec la vérité, avec le pardon, avec tous les attributs spirituels et moraux qui sont convenables et bienséants dans le corps de Jésus. On règle. Et notamment le pardon. Alors je ne vais pas refaire un message sur le pardon, je vous renvoie simplement à ces messages, 14, 20, 28 décembre 2025, les messages sur la restauration, il y a 3 messages sur le pardon, je ne vais pas repartir là-dessus, mais le pardon, bien aimé, on ne doit pas oublier que c'est la voie royale. que le pardon n'est pas une option. Et que même quand c'est très dur, parce qu'on a pu être profondément blessé, je sais qu'il peut y avoir des blessures profondes, des injustices. Quand les choses dans les églises en général, peu importe le sujet, sont gérées malheureusement par la chair et pas par l'esprit, on voit toujours les résultats parce que la chair ne produit qu'une seule chose, la destruction et la mort. Elle ne produit que ça, elle ne sait faire rien d'autre. Et quand les choses malheureusement sont gérées par la chair, il peut y avoir tellement de blessures, tellement de... Et même si c'est dur, le Seigneur, je l'avais dit dans sa grâce, le Seigneur nous accompagne sur ce chemin. Mais l'issue, même s'il y a l'accompagnement du Seigneur, la volonté au final du Seigneur, c'est pardonnez-vous. Je vous y aiderai, je vous accompagnerai, je pourvoirai, je changerai vos cœurs si vous me le demandez. Mais de toute façon, la volonté de Dieu au final, c'est le pardon, le pardon, le pardon. Parce que si on enlève le pardon de l'évangile, bien-aimé, c'est plus l'évangile. Si on enlève le pardon de nos vies et dans l'église, l'église n'est plus l'église. Elle ne ressemble plus à son maître. Le pardon restera toujours la destination, l'objectif, la voie royale. C'est quoi pardonner? On l'avait vu. Pardonner, c'est effacer. On remet la dette. Le roi miséricordieux, ému de compassion devant ce serviteur pécheur et inconscient, ému de compassion, lui remit la dette et le laissa aller. Et c'est ça le pardon, c'est effacer, remettre la dette, renoncer à faire payer l'autre. Ça, c'est le cœur de l'évangile, c'est la mentalité de Christ, c'est l'état d'esprit. Alors, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, je serais tenté de dire, quand l'un aura sujet de se plaindre de l'autre, parce que, Paul le sait, l'Église, ce sont des membres. L'Église, ce ne sont pas des chaises. L'Église, ce sont des brebis. Ce sont des disciples, ce sont des soldats, ce sont des membres, des pierres vivantes et par conséquent des membres imparfaits parce que tous nous sommes en chemin vers la ressemblance de Christ. Tous nous sommes, pardonnez-moi l'expression, mais tous on est en chantier à l'intérieur. Tous on est en train d'être recréés et dans cette recréation, dans cette reconstruction, dans cette marche de sanctification, c'est inévitable que les brebis au contact les unes des autres, il puisse y avoir des blessures, que des soldats en marchant aient pu se blesser les uns les autres. Ce sont des choses, Paul le sait, qui sont inévitables parce qu'on est tous perfectibles. Sauf toi. Parce qu'on est tous perfectibles. Oui ou non? Tous, on a été déçus. Tous, on a déçu. Tous, on aurait pu faire plus. Tous, on aurait pu faire mieux. Tous, on aurait pu faire différent. Tous, on a eu des manquements. Et si on veut, bien aimé, on peut trouver, on trouvera toujours. Si on veut, on peut toujours trouver à redire sur tout et sur tous. Parce que l'Église, ce sont des membres imparfaits, mais qui s'aiment de l'amour de Dieu et puis qui sont sur cette voie royale du pardon. Et tous, on pourrait trouver à redire. Puis en plus, ce qui est compliqué dans l'Église, il faut reconnaître, hein, je vous ai dit, c'est regardez les premiers messages. L'Église, c'est une pédagogie de Dieu. L'Église, c'est une folie de Dieu. Humainement parlant, c'est une folie. Humainement parlant, vous n'avez rien à faire là. Humainement parlant, vous n'avez rien à faire ensemble. Mais le Seigneur, il a fait exprès de vous mettre tous là ensemble. C'est la folie de Dieu. C'est sa pédagogie. Et ce qui est compliqué, et le Seigneur le sait, il fait exprès, c'est qu'en plus, on ne grandit pas tous au même rythme dans l'Église. On ne comprend pas tous les mêmes choses au même moment. Moi, j'ai grandi sur ce point, j'ai compris ça, c'est bon, je suis bien, c'est réglé. Et l'autre à côté, ça fait 10 ans, il n'a toujours rien compris. Et sur ce point, par contre, l'autre, il y a des choses, non, je suis désolé, dans ce qu'il dit, il n'a pas tort, il n'est pas plus... C'est pas parce qu'il ne pense pas comme toi qu'il est nul. Et il y a des choses, il ne les a pas comprises. Mais sur d'autres points, tu ferais peut-être bien de l'écouter parce qu'il a compris certaines choses que toi, tu n'as toujours pas comprises. Et on ne comprend pas les mêmes choses au même moment. On grandit, merci Seigneur, mais on ne grandit pas au même rythme. Pour ceux qui ont eu des enfants et qui en avaient, ben, vous avez vu comment ça se passe avec les enfants? Vous les avez aimés de la même manière? Enfin, j'espère. Que vous n'avez pas eu un amour différent pour vos deux filles, vos fils. J'espère que vous n'avez pas eu un amour préférentiel. Vous les avez aimés pareil? vous les avez nourris pareil. Rassurez-moi, vous les avez nourris pareil. Il n'y en avait pas un qui mangeait du caviar pendant que l'autre était enfermé à la cave avec un quignon de pain. Vous les avez nourris pareil. Et au final, ben vous en avez un, il grandit comme ça. Puis d'un seul coup, paf, explosion de croissance. Oh, il avait, au mois de juin, il avait les manches comme ça. Vous arrivez au mois de septembre, il a les manches comme ça. Il sort de son lit, il dit, oh, maman, j'ai mal partout, je crois que j'ai un problème. Ah oui, ben t'as fait une crise de croissance, mon fils. T'as fait une crise de croissance, ma fille. Et ils n'ont pas grandi au même rythme. Ils ont grandi à des rythmes différents. Ben, dans l'Église, c'est la même chose. Et puisque nous ne grandissons pas, bien aimés, au même rythme et au même... Ah, les déceptions. Nous espérions que... Oui, ben, au lieu d'espérer que, tu ferais mieux de demander à Dieu ce qu'il veut. Nous espérions que... Les déceptions, les opinions... Ah, j'avais vraiment cru que lui... Ah là là, et puis elle, j'aurais quand même pensé que elle. Mais le Seigneur, il te demande pas de penser. Pardon, je suis dur. Hein. Le Seigneur, il te demande de l'aimer. Alors les déceptions, les opinions, les points de vue, les incompréhensions, tout ça, c'est inévitable. Par contre, le conflit est évitable. La critique est évitable. Non seulement le conflit est évitable, la critique est évitable. Pourquoi ? Parce que le problème, bien-aimé, ce que nous considérons si facilement dans le visuel, dans les circonstances, dans ce qui nous saute aux yeux, chez les uns, chez les autres, ce que nous appelons problème, en vérité, ce n'est pas le problème. Ce qui est devant toi, ce qui est dans... Allez, pour prendre un texte de l'Évangile. La paille que tu penses avoir discernée dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas ça le problème. Même s'il a vraiment une paille. Hein. Allez, même. Admettons, il a vraiment une poutre. Tu ne t'es pas trompé. C'est toi qui as une paille et c'est lui qui a une poutre. Le problème, ce que tu penses être problème, n'est jamais le problème. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce que tu vas le gérer ? Est-ce que tu vas le gérer par l'esprit ? Ou est-ce que tu vas le gérer par la chair ? Est-ce que tu le gères avec l'état d'esprit de Christ ? Ou est-ce que tu veux le gérer avec les principes de ton ancienne vie ? Dépouillez-vous de tout ça. Est-ce que tu vas le gérer avec les principes de ton ancienne vie ? Est-ce que tu veux le gérer avec l'amour, la douceur, l'humilité de Christ ? Ou est-ce que tu veux le gérer avec ton moi, avec ton ego, avec ta conviction ? Est-ce que je le gère avec l'esprit de Christ ou je le gère avec l'esprit de ce monde ? La question, c'est absolument pas quel est le problème ? La question, c'est comment est-ce que je vais gérer ce problème ? Et quelle va être mon approche ? De cette question spirituelle ou charnelle, parce que là encore, bien aimé, c'est juste une histoire de choix. Choisis, positionne-toi, mais n'oublie pas, ton Père céleste t'aime d'un amour éternel, mais il ne t'épargnera jamais les conséquences de tes choix. Prenez votre Bible. De la première à la dernière page, je vous attends à l'heure que vous voulez cette semaine dans le bureau ou chez vous, et vous me montrez les passages dans lesquels Dieu ne nous soumet pas aux conséquences de nos choix. Choisis, mais choisis bien, parce que le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont tu vas le gérer. Et du coup, qu'une fois que j'ai compris ça, les choses sont beaucoup plus claires. Ça va beaucoup mieux, c'est tellement plus... Pardon, c'est beaucoup plus simple. J'ai... Ah oui, Seigneur, allez, ça, ok. Allez, ça, ok, je vais tenir mon frère fermement, puis je vais le porter par en dessous. Et puis on arrive forcément à ce petit parallèle, je ne ferai pas un message entier là-dessus. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, je fais un petit crochet par l'épître de Jacques. Ne parlez pas mal les uns des autres. Catalaléo. Parler contre, incriminer, faire un procès, instruire un procès, dire du mal d'eux, ne parlez pas mal, ne vous plaignez pas Jacques 5:9, Jacques 4, Jacques 5. Ne parlez pas mal, ne vous plaignez pas les uns des autres. Sténazo, soupirez. Vous savez, quand on fait... Souvent, quand on fait... Il y a les yeux qui montent au ciel, ça fait... Et le Seigneur, il te regarde, il dit, tiens-le fermement. Abaisse-toi encore un peu. Regarde comment moi j'ai fait avec toi. Descends. Seigneur, c'est bon. Descends. Patiente. Descends. Encore. Dis, Seigneur, ça commence à faire long, là. Descends. Tu sais comment moi je suis patient avec toi depuis... Tu t'es cru là. C'est bon, un cran en dessous maintenant. Descends. Et puis... Ah, une fois que tu es au bon niveau de ton frère ou de ta sœur, là, ça y est, tu peux le porter par le dessous. Et là, le Seigneur est honoré, il est réjoui. Ne vous plaignez pas, ne parlez pas mal, ne soupirez pas, ne levez pas les yeux au ciel. Pardonnez, effacez la dette, faites grâce, remettez toutes choses entre les mains de Dieu, parce qu'il y a une gestion charnelle et il y a une gestion spirituelle. Voyez, frères et sœurs, ce n'est pas des mots. Je vous le dis du plus profond de mon cœur avec sincérité. Je suis encore et toujours, au bout de 35, 38, 38 ans de vie de baptisé, au bout de 18 ans de ministère, je suis émerveillé de voir comment Christ m'a pardonné. Ça me bouleverse chaque jour. Je suis émerveillé de voir comment il me pardonne encore. Je suis bouleversé de voir comment il m'aime, comment il me porte, comment il est descendu pour me porter, comment il est descendu pour me soutenir. Et encore aujourd'hui, s'il ne me portait plus, où serais-je ? Et encore aujourd'hui, s'il ne me soutenait pas, où serais-je ? Personne ne m'a pardonné comme lui. Personne ne m'a soutenu comme lui. Personne ne m'a supporté et ne me supporte et ne me soutient encore comme lui. Personne ne s'est abaissé comme lui pour moi. Il me soutient, il me porte et il m'encourage. Et il patiente encore jour après jour, après jour, après jour, fidèlement jusqu'à la fin. Et il m'aime et il est joyeux que je sois son enfant. Et quand je n'ai pas compris et quand je me plante ou quand je fais un truc de travers... Pardonnez-moi, j'insiste, le Seigneur, il regarde pas le Père ou l'Esprit Saint ou les anges en disant, hey Stéphane, ben non, il fait pas ça. Alors moi, je veux comprendre comment mon Seigneur est avec moi, je veux comprendre comment mon Seigneur porte et soutient ma vie, et c'est comme ça que Jésus veut que l'on soit les uns pour les autres. Alors si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, effacez la dette. Faites grâce, ne cherchez pas à faire payer, remettez la dette et puis tenez-vous les uns les autres, bien-aimés, tenez-vous fermement, soutenez-vous par le dessous, portez-vous les uns les autres. C'est comme ça que Jésus veut que nous soyons les uns pour les autres, parce que c'est comme ça qu'il est avec nous. C'est ma conclusion, c'est comme ça que l'Église reste harmonieuse. C'est comme ça que l'Église est une Église spirituelle et non charnelle. C'est comme ça que l'Église est vivante de l'Esprit qui habite au milieu d'elle, qu'elle reste unie, qu'elle reste belle, agréable à Dieu. C'est comme ça que l'Église va être bénie. C'est comme ça que l'Église va être puissante et qu'elle a un avenir merveilleux ici-bas avec le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Merci pour votre attention. On se recueille un instant, s'il vous plaît. Merci. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous portes. Merci pour la façon dont tu nous pardonnes. La façon dont tu nous as pardonnés, mais la façon dont tu nous pardonnes encore et toujours quand nous te le demandons. Merci Seigneur pour la façon dont non seulement tu nous as portés et tenus jusqu'à ce jour, mais merci parce que je sais pouvoir compter sur toi pour ma vie avec ses limites, ses lacunes, ses faiblesses. Et je sais Seigneur que demain et autant que nécessaire, tu continueras toujours de me porter et de me tenir par le dessous. Parce que personne ne me porte et ne m'encourage comme toi. Merci pour cette révélation de ta parole. Je te prie afin que cette révélation vraiment vienne envahir nos cœurs, qu'elle apporte la lumière en nous, qu'elle bouleverse nos raisonnements, nos pensées, nos choix, nos attitudes, nos comportements, nos paroles, nos aspirations, nos conceptions. Seigneur, que ta révélation fasse le ménage en nous, que ta révélation, Seigneur, vienne nous bouleverser. Merci pour l'Église. Je te dis merci de tout mon cœur. J'aime ton Église, Seigneur. Et tu sais que ce n'est pas des mots. Je te bénis, Seigneur, pour tous les frères et sœurs. Dans les moments où j'étais à la ramasse, qui m'ont porté, qui m'ont soutenu, patiemment et avec amour, parce que si tu n'avais pas été là et si eux n'avaient pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne veux pas oublier d'où je viens. Seigneur, je te bénis. Et je te prie afin que chacun dans son cœur puisse réellement comprendre, avoir ces révélations en lui. Fais de nous, Seigneur, l'Église que ton cœur désire. Apprends-nous à nous aimer. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à régler. Apprends-nous l'humilité, la douceur, la vérité, la compassion. Apprends-nous à nous tenir fermement par des liens spirituels puissants. Apprends-nous à nous encourager à nous porter les uns les autres. Garde-nous de toute pensée de supériorité, de jugement, de mépris. Merci Seigneur, ton Église est belle et elle vaut bien plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Au nom de Jésus, j'ai prêché ta parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni.